France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Après deux nuits de décompte aux États-Unis, le suspense toujours, mais avantage Biden. Cinq États encore en balance dans la présidentielle américaine. Nous faisons le point dans un instant. Donald Trump promet de multiplier les recours et actions en justice. Ces accusations de fraude sont infondées, selon l'OSCE, qui a des observateurs sur place. Et Joe Biden tient déjà un discours rassembleur.
Quand le décompte sera fini, nous pensons que nous allons gagner. Nous serons les gagnants. J'ai fait campagne en tant que démocrate. Mais je gouvernerai en tant que président américain.
Et le candidat confirme que s'il est élu, les États-Unis réintégreront l'accord de Paris sur le climat. Le Covid, quand des hôpitaux appellent à l'aide, nous irons dans la Drôme. Les services débordent de patients Covid. Appel aux professionnels de santé qui peuvent aider. Manifestation de moniteurs d'auto-école aussi, que le confinement met en difficulté. Jusqu'à quel point la situation sanitaire impose-t-elle des dispositifs exceptionnels pour gouverner le pays? L'opposition au Parlement ne veut pas perdre son pouvoir de contrôle. Nous en parlons avec l'invité du 13-14, le sénateur de droite Philippe Bas. Restriction de liberté, pouvoir entre les mains du gouvernement, jusqu'où? Vos questions et interventions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Dans ce journal encore, hommage au metteur en scène Jean-Pierre Vincent qui vient de mourir. Le nouvel album de Dominique A avant une soirée spéciale sur France Inter. Combien de temps Thomas Tuchel sera-t-il entraîneur du PSG? Le temps se gâte un peu plus après la défaite en Ligue des Champions. Et puis notre feuilleton de la semaine avec le marin du Vendée Globe, Charlie Dalin. Ce sera avec Jérôme Val tout à l'heure. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et l'espoir prend de l'épaisseur à Wilmington, Delaware, quartier général des démocrates et du candidat Joe Biden, qui sera le 46e président des États-Unis. Le suspense reste de mise, mais le favori au moment où nous parlons, c'est bien l'ancien vice-président. Dans les États encore en balance, on approche ou dépasse les 90% de bulletins dépouillés. Et comme attendu, les votes par correspondance en particulier font pencher la balance en faveur de l'ex-bras droit d'Obama. Bonjour Sébastien Power.
Bonjour Bruno Duvic.
Sébastien, vous êtes en direct de Wilmington pour France Inter. Alors pour Joe Biden, les deux acquis de ces dernières heures, c'est le Wisconsin et le Michigan. Cinq États demeurent en balance. Deux dans l'ouest, Nevada, Arizona. Deux dans le sud, Géorgie, Caroline du Nord. Et puis un des grands lacs, Pennsylvanie. Où en est-on du décompte?
Alors commençons par la partie ouest, l'Arizona. Les chiffres, vous savez, il faut se rapprocher du 270 oui. Grands électeurs. On est à 253 ou 264 pour Biden contre 213 à Trump, selon que l'on considère que l'Arizona est désormais acquis ou pas aux démocrates. 86% des bulletins dépouillés dans l'ancien état du républicain McCain, dont la veuve a apporté son soutien à Biden. Biden est en tête avec un peu plus de 50%, mais le comté qui englobe la ville de Phoenix, notamment, n'est pas encore connu. Autre état, peut-être en passe de virer du rouge au bleu, donc du républicain au démocrate, où les jeux ne sont pas encore faits et où les deux candidats, là encore, sont en coude à coude, c'est le Nevada, voisin, six grands électeurs. Biden est en tête d'environ 8000 voix seulement. On compte toujours. À l'est, la Géorgie sera l'un des états clés cette année. L'état du sud, c'est 16 grands électeurs, 96% des bulletins dépouillés désormais. Le président sortant est en tête, mais de seulement 23000 voix. Et la ville d'Atlanta, à majorité démocrate, n'a pas encore livré tous les siens. Enfin, vous l'avez dit, la Pennsylvanie, Bruno, l'État qui peut sceller la victoire de Joe Biden dans les prochaines heures, l'État où il est né, 20 grands électeurs. Trump était devant, mais son avance fond au fur et à mesure que les heures passent, qu'on dépouille les bulletins envoyés par courrier, presque 90% des comptés désormais, 50-48 pour Trump, autour de 150 000 voix d'avance, mais là encore, on attend les villes, Pittsburgh, Philadelphie notamment, qui devraient plutôt donner des voix à Biden. Enfin, avec ces 5 États pour être complet, la Caroline du Nord, Trump devant, 95% des bulletins inconnus, mais ils peuvent arriver dans cet état de l'Est jusqu'au 12 novembre, caché de la poste américaine faisant foi.
Dans le contexte Covid que l'on connaît, quelle ambiance à Wilmington au QG des démocrates, Sébastien?
Curieuse, prudence, confiance, patience, trois mots pour résumer peut-être cet état d'esprit. Il n'y a pas grand monde, vous savez, Biden vient en drive-in depuis des jours et des semaines maintenant pour ses meetings. C'est pareil ici, sous le grand drapeau gigantesque, même porté par deux grandes grues. Il y a quelques voitures qui viennent, il y en avait une dizaine hier pour son deuxième discours. En 36 heures, il est venu avec sa colistière Kamala Harris pour dire qu'il ne venait pas déclarer sa victoire, mais que le décompte des voix se rapprochait des 270 grands électeurs. Il est convaincu qu'il sera victorieux. C'était donc sa deuxième intervention. Depuis, il est retourné chez lui, dans sa maison ici, dans un joli quartier de Wilmington. Il a dit que le pouvoir ne pouvait pas être pris, que c'est le peuple qui gouverne, et il n'a jamais cité Biden. Voilà cette ambiance assez curieuse. Pas de fête annoncée pour l'instant. On verra ce qu'il en sera quand les 270 grands électeurs seront atteints.
On vous retrouve à un autre moment de ce journal. Sébastien, vous restez avec nous. L'attente dure pour tout le monde, en particulier pour les militants démocrates. Alors Valentin Dunat est l'un des envoyés spéciaux de France Inter dans cette campagne. Il est basé, lui, à Austin, Texas, État qui a voté Trump. Mais voici une jeune fille qui s'appelle Elle. Ses parents sont des républicains bon teint. Elle est démocrate et elle se ronge les ongles.
Depuis les derniers 48 heures, je suis sur mon téléphone tous les 5 minutes. J'essaye de voir ce qui change dans l'élection pour voir comment Biden est fait. Et on ne sait pas comment ça va aller.
Pourquoi ça vous stresse autant ?
Pour moi, c'est mes droits de l'homme. Je suis une femme aux États-Unis. Je voyais beaucoup de sexisme dans ce que Trump y supporte, ce qu'il dit, voilà. Mais c'est pas juste pour moi. Il y a aussi mes amis qui sont des personnes de couleur qui sont aussi affectées par la politique de Trump. Et ça fait peur parce que je pense qu'il n'aide pas tous les Américains. Et c'est surtout les personnes blanches qui profitent de la politique de Trump. Je ne supporte pas du tout Trump, je trouve qu'il est vraiment un homme malin. Evil.
Le diable.
Le diable, oui. Je pense qu'il est un risque pour la démocratie aux États-Unis.
Le diable carrément. Alors on le disait Sébastien, l'autre information importante de la nuit à propos de Trump, eh bien, c'est qu'il multiplie les contestations et menaces de recours.
Oui, il demande un recomptage des bulletins dans le Wisconsin, notamment où Joe Biden l'emporte de un point seulement. Les républicains demandent aussi une suspension du dépouillement en Pennsylvanie. Le gouverneur appelle à la patience. Globalement, le camp Trump, et Trump dans ses tweets, dénonce une fraude électorale et ne veut pas qu'on lui vole cette élection. Du coup, il y a quelques tensions ici et là. On en a vu à Détroit, à Portland, à Minneapolis, quelques manifestations, mais rien de majeur. À Phoenix, dans l'Arizona dont on parlait à l'instant, il y a quelques dizaines de sympathisants pro-Trump qui ont essayé de perturber le dépouillement autour du bureau de vote, mais là encore, rien de majeur. Faut noter que la très Trumpiste Fox News, la chaîne de télévision sur laquelle Trump aime venir parler dès tôt le matin, plusieurs élus républicains aussi ne suivent pas le président dans cette contestation qui est menée très largement et notamment par son ami avocat, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani.
Alors l'attitude de Trump et des Trumpistes après deux nuits de dépouillement, Benjamin Ely, autre envoyé spécial de France Inter, nous l'a décrit.
Une journée blanche pour Donald Trump ce jeudi, rien à l'agenda, aucun événement public. Donald Trump continue en fait de se terrer à la Maison Blanche, barricadé. C'est là qu'il organise la contre-offensive. Il en appelle à la justice, dénonce une élection volée. Il dépose des recours dans les États clés, Michigan, Géorgie, Pennsylvanie. Et sur Twitter, il nous offre toute la gamme des émotions, de la fureur à une forme de résignation, presque découragé. Donald Trump, quand il parle de ses avocats déployés pour contester les résultats, mais à quoi bon, dit Donald Trump, le mal est fait. Heureusement pour lui, sa base électorale est solide, prête à agir pour le soutenir avec une manifestation en Arizona hier soir. Plusieurs dizaines de partisans ont dégainé leurs casquettes rouges devant le siège des autorités électorales dans le comté de Maricopa. Ils ont scandé « Comptez nos votes », craignant que leur voix soit oubliée, craignant des fraudes. Soutien aussi de Paula White, télé-évangéliste, conseillère spirituelle du président sortant. Un soutien passionné et en prière. J'entends le son de la victoire répété à l'infini, le son de la victoire alors qu'il est, c'est encore un lointain écho pour Donald Trump qui assiste ces dernières heures, il faut le dire, à la remontada de son adversaire.
Et on a évidemment les yeux fixés sur le compte Twitter du président, pas de nouveau tweet pour l'instant alors qu'il est 7h08 du matin à Washington. À propos des menaces d'action en justice de Donald Trump et ses accusations de fraude sans preuve fournies, l'organisation internationale OSCE, qui a des observateurs du vote sur le terrain, sort de son silence habituel pendant un dépouillement. Les allégations de Trump sont infondées pour l'OSCE, Bertrand Galichet.
En tant qu'organe de dialogue entre occidentaux et anciens pays du bloc de l'Est, L'OSCE prend rarement des positions tranchées sur des sujets polémiques. La déclaration du chef des observateurs aux États-Unis, chargé de suivre la présidentielle américaine, le député allemand Michael Georg Glinck, critiquant les allégations de fraude, fait donc sensation. Pour Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, l'OCDE mesure les répercussions qu'aurait une crise institutionnelle à Washington.
Un contentieux électoral aux États-Unis risquerait de faire un effet catastrophique sur le jeu politique mondial, au moins jusqu'à la prise de fonction en janvier prochain. Ce serait à ce moment-là une crise institutionnelle qui rejaillirait sur les relations internationales. Et ça, je crois que personne n'en veut, sauf peut-être les ennemis jurés des États-Unis qui y trouveraient une sorte de revanche.
Selon Bertrand Badi, cette intervention montre aussi que les langues se délient après le scrutin. Donald Trump ne bénéficie d'aucun soutien à l'OSCE dans sa tentative de contestation des résultats.
Avant de retrouver encore Sébastien Paour, cette photographie de l'Amérique après deux nuits de suspense qui se prolonge pour les militants des deux côtés. Jérôme Jadot est à Washington.
On entend souvent que l'Amérique est déchirée, mais dans cette bande d'étudiants croisés devant la Maison Blanche, Trumpistes et partisans de Joe Biden restent amis. Dean, le républicain, ne porte pas de masque. Il croit toujours dans les chances du président sortant, s'il le faut, avec l'appui des tribunaux. On va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, si cela aboutit devant la Cour suprême ou pas. Il y a un chemin pour une victoire de Donald Trump et je pense qu'il va le prendre. Je suis plutôt confiant. S'il est réélu, peut-être que je fêterai ça avec quelques investissements en bourse. Une réélection que redoute Andrew, le démocrate, masque sur la bouche et pancarte Trump dehors maintenant à la main, lui aussi a de l'espoir. Je suis plutôt confiant. Je pense que Biden a 60% de chances de l'emporter. Mais je suis nerveux. Trump pourrait encore gagner. Je m'attendais à ce qu'il s'attaque au vote par correspondance parce qu'ils sont plus favorables aux démocrates. Si Biden gagne, je ferai la fête normalement. Je me sentirai en fait juste plus sécurisé. Andrew et Dean qui se retrouvent au moins sur un point, il faudra être encore patient avant une victoire définitive avec épuisement des recours en justice.
Sébastien Paour en direct de Wilmington, Delaware. Encore quelques précisions avec vous sur le vote populaire, le nombre de suffrages pour les deux candidats. Où en est-on ?
Alors, presque 72 millions de voix pour Joe Biden. Je peux même consulter la carte tout en vous parlant si j'arrive à y accéder. 71 962 752, c'est celle du New York Times.
Ouais.
Elle est relativement fiable. Elle est aussi celle de CNN. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais ? Combien pour Donald Trump ? 68 360 000. Faut se méfier de ces chiffres. Vous vous souvenez qu'en 2016, il y a 4 ans, dernière élection, Clinton, ouais. Hillary Clinton a perdu l'élection alors qu'elle avait largement emporté le vote populaire. Près de 3 millions, 2 800 000 voix au niveau national de plus que, ouais. que son adversaire Trump qui l'avait emporté.
Et un mot de la course pour le Congrès, de la couleur du Congrès dépendra le pouvoir du président à venir.
Oui, quel que soit le vainqueur, le prochain président devra composer avec un congrès où les démocrates vont garder le contrôle de la Chambre des représentants, mais où le Sénat ne devrait pas basculer côté démocrate. Plusieurs républicains sont réélus.
Merci Sébastien Paour en direct de Wilmington, QG des démocrates dans le Delaware. D'ores et déjà, alors qu'on ne connaît pas, vous l'aurez compris, l'issue du scrutin, Biden annonce que s'il est élu, eh bien les États-Unis réintégreront l'accord de Paris sur le climat. Hasard du calendrier, c'est hier, après 4 ans d'un Trump climato-sceptique à la Maison-Blanche, que les USA sont officiellement sortis de l'accord. Eh bien, y entrer à nouveau n'est pas si compliqué que cela, selon Pascal Canfin. Il est eurodéputé En Marche, président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen. Un simple décret présidentiel permettrait de refermer la parenthèse Trump, qui n'a pas eu le temps pour l'instant de faire de gros dégâts.
Les États-Unis, c'est aujourd'hui le deuxième émetteur au monde de gaz à effet de serre, et par habitant, c'est l'un des plus élevés au monde. Et donc, si les États-Unis ne jouent pas le jeu, ça a deux conséquences. La première, c'est que ça rend extrêmement difficile le fait d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en commun, à savoir ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique. C'est encore plus difficile d'y arriver. Puis le deuxième élément, il est plus géopolitique, c'est que si les États-Unis ne sont pas dedans, pour tous les pays plus pauvres que les États-Unis, les pays africains, et pour la Chine, qui est le grand rival stratégique des États-Unis, ça donne un argument massu pour dire si les États-Unis ne font rien, moi non plus. C'est pour ça qu'un seul décret présidentiel de Joe Biden, s'il est élu en janvier 2021, lui permettra de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris et de recréer la dynamique positive avec l'Europe, bien évidemment, avec la Chine, dont nous avons impérativement besoin pour gagner la bataille climatique.
Un propos recueilli par Célia Kiret. Je vous rappelle donc le dernier état des décomptes. 5 états dans la balance, 4 en particulier, Nevada, Arizona, avantage Biden, 8000 voix dans le Nevada, 400 000 dans l'Arizona. La Géorgie et la Pennsylvanie, l'avance de Trump est en train de fondre. 20 000 voix d'avance en Géorgie, Pennsylvanie encore 200 000, mais il en avait 700 000 d'avance hier. Le confinement, petit tour de vis supplémentaire à Paris. Il concerne certains débits de boissons, épiceries, points de restauration à emporter. Ils devront fermer à 22h. Décision prise avec le préfet de police Didier Lallement et annoncée par la maire Anne Hidalgo. Pas de bataille politique sur ce terrain. La présidente de droite de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, approuve la mesure.
Ce que souhaite le préfet de police, ça n'est pas ce qu'on appelle un couvre-feu, c'est en réalité éviter les attroupements qui se font dans certaines rues de Paris autour de commerces qui sont ouverts toute la nuit et qui peuvent générer effectivement des infractions en réalité au protocole sanitaire. Donc effectivement, le préfet de police envisage de fermer à partir de 22h un certain nombre de commerces qui sont ouverts toute la nuit et qui génèrent des attroupements. C'est ça ce que souhaite faire le préfet de police et je lui dis que j'avais évidemment tout mon accord pour réguler les situations qui posent des problèmes sanitaires.
Propos recueillis par Maxime Debs. En France, on s'approche chaque jour un peu plus du cap des 40 000 morts du Covid en France et une partie des médecins dénoncent des mesures soit insuffisante, soit pas assez respectée dans le confinement. Après le professeur Pialou de l'hôpital Tenon à Paris, dans ce journal lundi, au micro de Daniel Messager, le chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré à Garches, en banlieue parisienne, on est en train de rater le confinement, dit-il. Notre service de santé est quasiment au maximum de ses capacités, il parle globalement. C'est ce que dit le docteur Hanan. Exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, les hôpitaux Andro-Mardèche sont débordés par l'arrivée de patients Covid. 66% d'hospitalisation en plus dans la Drôme en une semaine, 60% en Ardèche. Les hôpitaux Drôme-Nord appellent les professionnels qu'ils peuvent à venir renforcer les équipes, Willy Moreau.
En une semaine, l'hôpital est passé de 40 personnes hospitalisées à 71. Une augmentation exponentielle qui va se poursuivre dans les prochains jours. Jean-Pierre Coulier, le directeur des hôpitaux Drôme-Nord, s'inquiète pour la suite.
Aujourd'hui, la réanimation est pleine. Nos services post-urgence de Covid+, sont aussi pleins. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir 4 lits de réanimation supplémentaires, de passer de 16 à 20, et de réouvrir une troisième unité spécialisée Covid+, à hauteur de 24 lits.
Problème, 44 agents sont aujourd'hui mis à l'écart pour des cas de coronavirus. Alors pour pallier le manque de personnel dans les unités Covid, la direction recherche des médecins libéraux, des infirmiers, des aides-soignants.
Pas seulement pour ces services, d'ailleurs ça peut être aussi pour d'autres services, puisqu'on redéploie en interne des praticiens vers ces unités-là.
Et qu'importe la disponibilité, précise Jean-Pierre Coulier.
Ah, même une journée par-ci, par-là, que ce soit d'ailleurs sur Romain, ou sur Saint-Vallier.
Impossible, contrairement à la première vague, de se reposer sur d'autres hôpitaux aux alentours. Ces établissements, eux aussi, sont débordés.
Les conséquences économiques de ce confinement parmi les professionnels qui manifestent, ceux des auto-écoles. Manifestation, par exemple, aujourd'hui à Tarbes. Les règles pour les auto-écoles en ce moment sont les suivantes. Pas de leçons possibles. En revanche, on peut passer le permis. Et cela a des conséquences fâcheuses pour les moniteurs, mais aussi certains candidats, Fabien Arnet.
À 18 ans, Jordi a l'avenir devant lui. CAP de motoculture en poche, il veut le doubler d'un bac pro vente avec des stages en entreprise. Mais il a besoin de décrocher son permis de conduire.
Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis pas stressé, je suis prêt.
Sur les 20 heures obligatoires de conduite, Jordi en a fait 18. C'est son moniteur qui lui a appris qu'il ne pourrait pas passer le permis au mois de novembre.
Monsieur Salès m'a appelé en me disant que c'était hors de question, j'avais pas fait les 20 heures. Donc c'était pas possible. Il faut les 20 heures obligatoires pour passer mon permis.
Jean Salès tient une école de conduite à Guéret. Il s'inquiète pour Jordi en cas de confinement prolongé.
Quand on va rattaquer au déconfinement en termes de motivation, bon courage, pour passer l'examen, il va falloir le reformer.
Au-delà de ce cas, Jean Salès demande que le gouvernement sorte les auto-écoles d'une situation ambiguë.
Comme on n'est pas en fermeture administrative, on n'a pas les aides de l'État, c'est-à-dire que là on fait chiffre d'affaires zéro et aucune aide de l'État derrière. Donc soit on lui dit clairement fermé, on ferme, on joue le jeu et on se réorganise derrière. Soit on nous dit formez vos candidats, amenez-les à l'examen. Mais on ne peut pas faire les deux, quoi.
Aujourd'hui, les candidats au permis peuvent passer leur examen, mais sans prendre de cours. totalement absurde, selon l'Union nationale des enseignants de la conduite.
Et quel contre-pouvoir face au gouvernement en cette période d'état d'urgence sanitaire? Quelle place pour le Parlement, pour les élus locaux, pour l'opposition? Ce sera le sujet de notre interview avec l'invité du 13-14 aujourd'hui, Philippe Bas, le sénateur de droite, ancien président de la commission des lois au Sénat. J'attends vos questions sur ce thème au 01 45 24 7000. Une image de la période que nous traversons, nous la trouvons à l'aéroport de Châteauroux. Très peu de vols internationaux en ce moment, évidemment. Les compagnies aériennes ont besoin de parking pour les appareils cloués au sol. Eh bien, l'aéroport de Châteauroux en offre, à prix raisonnable. Et il y a sur place des services de maintenance. Du coup, Béatrice Duguay, eh bien, ce petit aéroport a rarement été aussi fréquenté.
Ne cherchez pas les passagers, mais les avions, oui, une quarantaine, dont 10 Airbus A380 de British Airways qui stationnent en quinconce sur un taxiway. Frappant aussi sur les 25 hectares de parking, les fuselages aux couleurs de compagnies asiatiques et puis un stock d'Airbus en attente de livraison. Des avions confinés qu'il faut entretenir.
Celui-ci, on est en train de faire des remises en service. C'est un avion qui doit voler la semaine prochaine. Notamment, on fait la vérification de tous les systèmes d'instruments de bord, vérifier du coup que les indications sont bonnes.
Dans l'aviation, l'employeur de Richard assure la maintenance d'une dizaine d'appareils sur site, contre 5 ou 6 en janvier dernier. Certains doivent pouvoir revoler très vite.
Du coup, les moteurs, on les fait tourner toutes les semaines, tous les 15 jours. Les trains d'atterrissage en eux-mêmes, toutes les parties exposées aux intempéries sont protégées. On doit déplacer l'avion, c'est-à-dire on doit le faire rouler tous les 15 jours pour éviter que les roulements de roues ne s'abîment. Toutes ces commandes de vol, tout ce qui a besoin d'être lubrifié, c'est certainement un des gros points.
Parmi les clients de DAL Aviation, il y a aussi DHL qui utilise des avions passagers pour transporter du fret. Le fret qui a pris de l'ampleur à Châteauroux. 37 appareils ont ainsi livré 145 millions de masques au printemps.
On sait aujourd'hui où se trouve Châteauroux?
Didier Lefrène, le directeur de l'aéroport.
Ça profite à l'aéroport évidemment, mais ça contribue à l'attractivité de l'Indre et de la région Centre-Val-de-Loire.
C'est là aussi que de nombreux pilotes viennent s'entraîner, activité qui attend des jours meilleurs.
Ailleurs en Europe, l'heure est aussi au reconfinement en Angleterre aujourd'hui et en Grèce. Avec cette particularité, pour sortir de chez soi, il faudra y avoir été autorisé par SMS. Emmanuel Macron au col du Pertu dans les Pyrénées-Orientales, le point de passage principal entre l'Espagne et la France. Le président examinait le renforcement des contrôles aux frontières. C'est la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Une semaine après l'attaque à Nice qui a fait 3 morts, ces annonces du chef de l'État.
Nous avons décidé d'intensifier très fortement notre contrôle aux frontières au sein de l'espace Schengen. Nous avons donc décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers, gendarmes, militaires qui seront mobilisés dans ce cadre et CRS pour lutter contre l'immigration clandestine. Je suis favorable à ce que nous refondions en profondeur Schengen pour en repenser l'organisation, pour intensifier notre protection commune aux frontières, avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures de l'espace, en renforçant aussi l'intégration de nos règles et en réussissant à construire aussi un fonctionnement conjoint de nos ministres en charge justement de l'intérieur et de la sécurité pour que l'Europe fonctionne de manière beaucoup plus intégrée sur ce sujet.
Et le président de la République, ici au micro de Sébastien Berriot, ajoute que la lutte contre l'insécurité ne justifie pas de changer la Constitution. C'était il y a 2 ans aujourd'hui, la conséquence dramatique d'années de laisser-aller. 2 immeubles s'effondraient en plein centre de Marseille, aux 63 et 65 rue d'Aubagne. Ce matin, Romane Porcon, une cérémonie de recueillement pour les 8 victimes se tenait.
Devant le grand trou laissé par les immeubles du 63 et 65 rue d'Aubagne, des torches à la main, la foule respecte une minute de silence pour chacune des victimes. Sandra ne peut s'empêcher de verser quelques larmes.
C'était très fort et émouvant de se retrouver tous ensemble à cette heure fatidique. J'étais en bas de la rue, un drame qui a marqué nos 2 dernières années. Bien sûr, c'est 8 personnes qui sont mortes, qu'on leur a coupé leur vie, leur destin de façon horrible.
Dans la foule, le commandant Guillaume des marins-pompiers de Marseille revient pour la première fois depuis son intervention lors des effondrements.
Ça rappelle ce que mes équipes et moi avons fait il y a 2 ans et ce que le bataillon a fait pour sortir ces personnes. Quoi. C'est un grand moment d'émotion.
Un moment de recueillement qui ravive des souvenirs douloureux pour Frédéric. Il habite juste en face, au numéro 70.
Je me refais tout le film. J'étais dans ma chambre lorsque j'ai ressenti une espèce de tremblement de terre qui a fait vibrer tous les murs de ma chambre. J'ai découvert l'horreur en ouvrant les fenêtres de ma cuisine, en voyant cette montagne de gravats. Quand on voit qu'il y a quand même du monde, ça fait du bien, on peut se serrer les coudes. C'est vraiment important parce que c'est le 5 novembre.
Depuis cette date, Frédéric a déménagé. Il ne pouvait plus se réveiller chaque matin en revivant ce drame. Marseille, Romain Porcon, France Inter.
Et cette semaine, le bailleur social d'un des deux immeubles Marseille Habitat qui dépend de la mairie a été mis en examen pour homicide involontaire. Il était l'un de nos grands metteurs en scène, naguère proche de Patrice Chéreau, ancien administrateur de la Comédie Française. Jean-Pierre Vincent vient de mourir. Il avait 78 ans. De ce poste à la tête de la Comédie Française, qu'il avait occupé de 83 à 86, il disait qu'il était le plus difficile avec Matignon. Il y était arrivé assez jeune, dans une maison où les grands anciens qui ne vous pardonnent rien sont légion.
J'ai hésité beaucoup pendant 3 mois, c'était très violent. Alors j'y suis allé, ça avait quand même des réactions vives. C'est-à-dire que quand vous ouvrez les portes et les fenêtres d'un endroit, ça remue la poussière. Et ça fait éternuer beaucoup de gens. Alors il y avait ceux qui pensaient que je n'étais pas digne de cette maison, et il y a ceux qui pensaient que cette maison n'était pas digne de moi. Et ils se tiraient dessus, et c'est moi qui prenais les balles. Et j'avais 40 ans. Et je devais être le père, un peu naïf, de gens de 60 ans, qui pensaient encore beaucoup aux merveilles du passé des années 60, quand il jouait Fédot dans le monde entier, avec Robert Hirsch, avec Jacques Charon, avec tout ça. Les fantômes de Jacques Charon marchaient dans les couloirs. Enfin, vraiment, c'était terrible. Je devais être le père de ces gens-là, qui en plus avaient le bras long. Parce que ils avaient eu la vocation d'être acteurs à la Comédie Française, à la fin de la guerre. Georges Descrières, des gens comme ça. Pour devenir des acteurs bourgeois.
Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, qui vient de mourir à l'âge de 78 ans, ses propos étaient tenus lors du festival Théâtre en mai à Dijon en 2015, extrait choisi par Stéphane Capron. C'est un novembre compliqué pour le Paris Saint-Germain. Certes, les Parisiens sont en tête du championnat de France, mais en Ligue des Champions, ils sont en situation délicate après une deuxième défaite en 3 matchs, 2-1 hier à Leipzig, en l'absence de Mbappé, Neymar et Verratti. Et les relations se dégradent chaque semaine un peu plus entre l'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif du club, Leonardo. Malgré une finale en Ligue des Champions cet été, l'avenir de Tuchel à Paris a la forme d'un point d'interrogation, Alexandre Vaux.
Les doutes ont été ravivés avant-hier déjà dans une interview à la presse étrangère. Thomas Tuchel, dont le contrat se termine à la fin de la saison, déclare ne plus rêver, je cite, d'une prolongation. Forcément, le timing interroge à la veille du match. Alors l'entraîneur allemand s'est expliqué hier soir.
On m'a demandé pourquoi la presse en France est très critique. Voilà, c'est la vie comme entraîneur à Paris. C'est comme ça et c'est aucun problème pour moi.
Mais pour les joueurs, peut-être, d'autant que les relations sont devenues glaciales entre Tuchel et le directeur sportif du PSG, Leonardo. Un contexte pesant, amplifié par la défaite d'hier. Et pourtant, à la sortie du match, le capitaine et défenseur parisien Marquinhos a soutenu publiquement son coach.
C'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire. On a confiance dans le coach. Et je pense que nous, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux aussi. Il faut qu'on rentre sur le terrain et on se bat pour gagner.
Le vice-champion d'Europe n'a plus le choix. S'il veut encore se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, il lui faudra battre Leipzig dans 3 semaines au Parc des Princes.
Allez, si vous êtes fan du PSG, pour vous consoler, une jolie soirée vous attend sur France Inter. Carte blanche à Dominique A, l'auteur du Courage des oiseaux et l'invité de votre radio préférée, Laura Adler. Mishka Assayas, puis Laurent Goumard, de 20 à 23 heures. Cela à la veille de la sortie de son nouvel album « Vie étrange ». À propos de cet album, Dominique A. s'est confié à Mathieu Culon.
C'est vrai, l'hiver dure trop longtemps.
Après la mort soudaine et brutale de Philippe Pascal, chanteur emblématique du groupe Marquis de Sade, Dominica a voulu lui rendre hommage dans un livre. Et puis le confinement est arrivé et une reprise d'un des titres du chanteur René s'est imposée. C'est à partir de là qu'est né ce disque.
J'ai commencé à jouer de la guitare et ça m'a rappelé, à un moment donné, j'ai égrené quelques accords qui m'ont rappelé une mélodie et c'était l'éclaircie de Marc Seberg, donc le titre emblématique du groupe de Philippe Pascal. Et très rapidement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et je m'y suis accroché comme une moule à son rocher, hein, vraiment pour passer le cap des premières semaines.
Si je ne te regarde plus, tu disparais.
« V Vie étrange est un disque à part, la musique est minimale, la voix est parfois susurrée, le récit est cantonné dans le périmètre de l'intimité.
Ce sont des enregistrements qui sont liés à mon environnement, aux choses qui se passent, que je vois, si ce n'est en bas de chez moi, en tout cas pas très loin, dans les limites du kilomètre réglementaire. C'est-à-dire, effectivement, là, dans, à la même place, il y a cette histoire de couple qui regarde le fleuve, qui est dans une voiture, qui bouge pas. Ce couple, je l'ai vu pendant des mois. Et il y a des chansons comme ça qui ont... un écho direct à des choses de ma vie. Ouais.
Dominica prévient, il n'y aura qu'un seul disque dans ce genre dans sa carrière, un album à part, toujours aussi beau et limpide.
Comme un marin mis sur le sable, une sirène m'a laissé en rade, il est temps de hisser la voile.
Dominica qui aura carte blanche ce soir à partir de 20h sur France Inter, et l'album Vie étrange dont vous entendez des échos sort demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Météo France, soleil et fraîcheur Élodie.
Et oui, on a du soleil quasiment partout, avec un petit vent de nord-est sensible tout de même sur les régions du nord, notamment entre la Bretagne, les Pays de la Loire et les Charentes. Il reste quelques grisailles tenaces entre l'Auvergne et le Lyonnais. Sur l'ouest du Languedoc-Roussillon, là des nuages également, poussés par un vent de sud-est qui souffle jusqu'en région toulousaine, jusqu'à 50 km à l'heure. Il fait bien frais au nord jusqu'à la région Rhône-Alpes, souvent 10 à 14 degrés. Sur le sud-ouest, 15 à 18 degrés. Et puis vous avez 16 à 22 autour de la Méditerranée. Un petit mot pour demain, on va gagner quelques degrés l'après-midi. Le soleil sera encore bien présent une fois les grisailles et les brouillards dissipés. Et en revanche, sur le Languedoc-Roussillon, là, ça restera gris avec quelques pluies et un fort vent de sud-est jusqu'à 100 km à l'heure. 100 km à l'heure aussi pour les Pyrénées.
Élodie Calac, Météo France. 13h31.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
Jusqu'à quel point la situation sanitaire en France impose-t-elle des dispositifs exceptionnels pour gouverner le pays? Le confinement, bien sûr, mais aussi l'état d'urgence sanitaire, un contrôle moins régulier du Parlement, des décisions du gouvernement, une instance militaire, le Conseil de défense pour acter les décisions et un éventuel report des élections départementales et régionales prévues le mois prochain. Interrogation supplémentaire, l'opposition peut-elle convaincre qu'elle n'est pas dans la démagogie ou l'opposition systématique quand elle soulève ces questions? Notre invité pour en parler avec vous jusqu'à 13h45 est sénateur Les Républicains de la Manche, longtemps président de la commission des lois au Sénat et secrétaire général de l'Élysée quand l'état d'urgence avait été décrété face aux émeutes en banlieue. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour intervenir. Bonjour Philippe Bas.
Bonjour.
Et merci d'intervenir sur France Inter. Avant d'en venir au débat sur le rôle du Parlement, approuvez-vous le confinement et ses règles actuelles?
Oui, je crois que nous ne devons pas marchander notre appui au pouvoir exceptionnel. Mais la contrepartie de pouvoir exceptionnel qui restreignent les libertés, c'est bien sûr un contrôle accru du Parlement. Ça veut dire que il faut que le Parlement soit amené à se prononcer régulièrement pour dire si oui ou non il faut ou non prolonger les pouvoirs exceptionnels, car dans une démocratie, le pouvoir exécutif ne peut pas exercer sans contre-pouvoir des responsabilités aussi extraordinaires. Vous savez, la liberté d'aller et venir, elle est quand même au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc oui, la crise est exceptionnelle, il faut donc des moyens exceptionnels pour y répondre, mais la contrepartie, c'est le rôle du Parlement.
Alors, ces pouvoirs exceptionnels, ils sont donnés au gouvernement via l'état d'urgence sanitaire. Elliot nous demande, que permet cet état d'urgence sanitaire, Philippe Bas?
Il permet beaucoup de choses. Il permet d'empêcher les gens d'aller et venir librement. Il permet d'empêcher qu'ils soient accédés à des établissements qui reçoivent du public, et donc de fermer des cafés, des restaurants, des commerces. Il permet aussi d'empêcher des réunions, des manifestations publiques. Au fond, c'est faire en sorte que on limite le plus possible les interactions sociales, parce que ce sont des occasions de contamination.
population, même si aujourd'hui les Français sont très sérieux, portent le masque, restent à distance, et que le système de dépistage s'est peu à peu amélioré. Mais au fond, il y a la question de savoir ce que le gouvernement a le droit de faire sur autorisation du Parlement. Il y a aussi la question de l'efficacité du gouvernement dans la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont donnés.
Mais c'est-à-dire...
là aussi, est-ce que le système de dépistage fonctionne bien? Est-ce que le système pour les masques a été mis en place suffisamment tôt? Tout ceci doit être évalué par les commissions d'enquête parlementaires, dont le but est de dire, au fond, comment, face à une crise sanitaire de l'avenir, on pourra faire pour s'organiser mieux, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'échec. C'est un échec collectif, certes, mais enfin, le gouvernement qui a la responsabilité est quand même au premier rang. Donc, il faut savoir évaluer l'efficacité de l'action, donner des pouvoirs. Ce que nous faisons, nous, parlementaires, c'est une chose. Bien utiliser ces pouvoirs, c'est une autre chose.
Alors, le gouvernement veut que demande que la prolongation de cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février pour 3 mois, donc vote au Sénat aujourd'hui. Allez-vous voter contre et pourquoi ?
En fait, 16 février n'est qu'une étape. La vérité, c'est que le gouvernement demande à pouvoir utiliser des pouvoirs exceptionnels jusqu'au 1er avril. Mmh. Or, pendant les 7 derniers mois, nous avons voté 4 fois pour l'autoriser à utiliser de tels pouvoirs, et nous ne comprenons pas pourquoi, pour les 6 prochains mois, il faudrait que le gouvernement agisse seul, sans contrôle parlementaire. Et nous lui disons très simplement, l'acceptabilité des mesures auprès des Français, elle dépend aussi du fait que vous acceptiez de vous soumettre à l'autorisation régulière du Parlement. Nous ne voulons pas dire qu'il faudra absolument arrêter le 31 janvier. Nous disons simplement que d'ici au 31 janvier, si vous devez continuer les pouvoirs exceptionnels, il faudra un nouveau vote. C'est quand même pas la mer à boire, et c'est même la moindre des choses dans une démocratie.
Et l'argument, Philippe Bas, selon lequel il faut agir vite et fort, bientôt 40 000 morts du Covid en France, des hôpitaux ou le service de réanimation sont déjà saturés, des transferts de patients entre régions. C'est pas irresponsable de chipoter pour quelques semaines dans ces conditions-là.
Alors, excusez-moi, mais je m'inscris en faux contre cette expression. Personne ne chipote. Nous disons simplement que ce que nous avons su faire, je n'ai pas entendu dire que le gouvernement avait été ralenti par l'obligation de demander l'autorisation au Parlement pour agir. Ça n'est pas du tout le cas. Le Parlement sait très bien qu'il faut aller vite. Pas de procès d'intention, mais juste le respect de la démocratie.
Quand cette semaine où les débats ont été houleux à l'Assemblée en particulier, le ministre Olivier Véran évoque les morts du Covid et parle de l'attitude indigne des députés qui s'opposent à la prolongation de l'état d'urgence, qu'en dites-vous ?
Le ministre était sans doute un peu harassé, et je veux croire que son expression a dépassé sa pensée, parce que si c'était sa véritable pensée, je ne la trouve pas très digne en vérité, car personne à l'Assemblée nationale, moi je suis au Sénat, mais personne au Sénat ou à l'Assemblée nationale manque de conscience de sa responsabilité vis-à-vis la réponse à apporter à la crise sanitaire. Ce n'est pas ça qui nous différencie, mais juste le fait que le gouvernement veut maintenant agir tout seul alors qu'il avait accepté de se soumettre au vote du Parlement pour l'autoriser à agir à 4 reprises en 7 mois. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi le gouvernement veut-il s'isoler au risque qu'il se trouve confronté à un dialogue singulier entre le président de la République et le peuple, sans que la représentation nationale et les corps intermédiaires puissent faire en sorte que les mesures soient améliorées, qu'elles soient validées par un vote et que du coup l'acceptation de ces mesures soit plus grande et qu'elles soient mieux respectées.
Alors, à propos de méthode du gouvernement, question de Nicolas au Standard de France Inter. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, moi je voulais demander à monsieur Bas concernant le Conseil de défense sanitaire. J'ai l'impression que Macron décide un peu de tout seul, il y met qui il veut, tout ça est couvert par le secret défense. Ce conseil n'est pas responsable devant le Parlement ni devant la justice. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là simplement à une espèce de putsch en direct version triumvirat? Est-ce qu'on n'a pas, par exemple, hein, à craindre, je sais pas moi, un report des élections jusqu'à nouvel ordre? Il me semble que si ça se passait dans un autre pays du genre, je sais pas, en Russie ou en Afrique, on parlerait de régime simplement et pas de démocratie. Donc j'aurais demandé à Monsieur Bas, voilà, est-ce qu'en tant que sénateur, en tant que représentant du peuple français, est-ce qu'il a la garantie, est-ce qu'il peut me proposer la garantie de me protéger contre un éventuel putsch en cours de M. Macron, quoi.
Alors, Philippe, je ne sais pas si on est à deux doigts du putsch. D'abord, est-ce que vous craignez, disons, un durcissement, un virage autoritaire du pouvoir? Examinons la question de Nicolas.
Pour éviter un virage autoritaire, il faut, ne croyez pas qu'il s'agisse d'une idée fixe, mais revenons à l'essentiel. Pour éviter un virage autoritaire, il ne faut pas que l'exécutif, le gouvernement, le président décide de tout seul. Il faut qu'il soit autorisé, quand il limite les libertés, par le Parlement à le faire, après avoir vérifié que c'était indispensable.
Et alors, il y avait deux questions, Nicolas.
Mesure,
il y avait
proportionnée deux... et nécessaire.
Il y avait deux questions,
Conseil
Nicolas.
De défense.
Conseil de défense, d'abord.
Alors, le Conseil de défense, c'est le chef des armées qui le réunit. C'est pas une enceinte appropriée pour discuter de santé publique, mais j'ajouterais tout de même, le président de la République s'organise comme il veut et s'entoure de qui il veut pour prendre ses décisions. Et par conséquent, je considère qu'il y a une volonté, en quelque sorte, d'affichage, de symboliser que c'est le chef des armées qui est en action et qui concentre tous les pouvoirs. Je ne partage pas cette approche symbolique, mais je ne crois pas que prendre des décisions en Conseil des défenses soit en soi porteur d'abus de pouvoir. Je crois qu'on peut pas dire ça. Il y a aussi une question de votre auditeur sur les élections.
Oui.
C'est une question très sérieuse. Pour reporter des élections, il faut qu'il y ait un intérêt général très fort. Nous avons actuellement 12 millions d'élèves qui sont à l'école, 1 million de professeurs qui leur enseignent, 20 millions à peu près de salariés qui ne sont pas en télétravail et qui travaillent, des transports collectifs qui fonctionnent, et on nous dit qu'il serait impossible d'organiser dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire un scrutin. Je suis un peu étonné de cet argument. Je crois qu'il y a un soupçon de vouloir reporter des élections pour convenance personnelle. Notre position au Sénat, c'est qu'il faut assurer d'abord la sécurité des élections, voir si c'est possible, double procuration pour faciliter le vote des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, vote par correspondance sécurisé avec intervention du tribunal judiciaire pour le contrôler de manière à ce qu'on puisse voter sans se déplacer. Il y a plein de mesures à prendre qui peuvent sécuriser le vote. En tous les cas, si on devait déplacer ce vote, il ne faudrait pas le déplacer de plus de 3 mois. Sinon, on pourra faire n'importe quoi avec la démocratie.
Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous soutenez, Philippe Bas, les maires qui prennent en ce moment des décrets autorisant la réouverture des magasins au nom de la souffrance économique des commerçants?
Je comprends surtout la souffrance économique des commerçants, mais je crois qu'il faut rester dans le cadre de notre état de droit, et c'est la raison pour laquelle nous avons voté à l'unanimité la semaine dernière un amendement que j'ai présenté et qui prévoit tout simplement que le gouvernement peut organiser par décret les choses en permettant au préfet, après avoir apprécié les conditions sanitaires, d'autoriser la réouverture de commerces non alimentaires, de commerces par leur ouverture n'apporterait pas d'insécurité et n'aggraverait pas les contaminations.
Nous retournons au standard. Question de Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
En fait, je viens d'entendre Philippe Bas évoquer la question des établissements scolaires qui sont ouverts, et c'est une très bonne chose. C'est très important que nos élèves puissent se voir assurer la continuité pédagogique. En revanche, pour être CPE dans un lycée du Val-de-Marne, je peux vous assurer que la contamination, elle se propage parmi les élèves. Moi, je vois passer des messages de l'infirmière ou des assistants d'éducation. Il y a environ une dizaine d'élèves qui sont mis à l'isolement chaque jour dans mon établissement. Et j'aimerais avoir le sentiment de votre invité sur cette question des contaminations dans les établissements scolaires, sachant qu'il faudrait peut-être permettre qu'il y ait seulement des demi-groupes dans les salles, avec la distanciation physique requise pendant la première partie du confinement, enfin la première phase. Je crois qu'il faut absolument que les élèves poursuivent leurs études, mais il faut leur assurer aussi la santé, la sécurité sanitaire. Et là, on en est très loin.
Merci Philippe pour cette question. Philippe Bas, vous qui avez une longue expérience d'élu local aussi, est-ce que c'est une préoccupation qui remonte et que répondez-vous à Philippe ?
J'apprécie d'abord la position très nuancée de Philippe et je dois dire que on est en face d'un problème qui est extrêmement compliqué. Comment faire en sorte de lutter contre les contaminations sans pour autant arrêter l'activité et en particulier l'activité d'enseignement dont on a pu mesurer que son interruption au cours du premier confinement avait entraîné des conséquences très négatives sur le développement des enfants. Je crains tout de même que caractère massif de ce regroupement des enfants dans les écoles, les collèges et les lycées soit porteur d'un risque sanitaire élevé. Je pense qu'il faut surveiller ça de très très près. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'en venir à une nouvelle fermeture des établissements d'enseignement, mais la question est véritablement posée, d'abord parce que les jeunes, on le sait aujourd'hui, sont menacés eux aussi par le Covid-19, et quand ils ne le sont pas, ils peuvent être porteurs du virus et le diffuser. Donc il faut qu'on surveille de très près les résultats du confinement en termes de contamination et ensuite qu'on réexamine toutes ces situations.
Une question, Philippe Bas, sur les élections américaines. Biden favori à ce stade, mais le Trumpisme n'est pas mort. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la France ?
Ben écoutez, d'abord, ce que je crois, c'est que il faut distinguer le Trump international du Trump tourné vers son propre pays. Le Trump international, il s'est caractérisé par l'effacement des États-Unis, ce qui est paradoxal compte tenu de la personnalité de ce président américain. Moi, j'aimerais que on puisse entendre America is back, mais véritablement, c'est-à-dire de retour dans le multilatéralisme, de retour comme interlocuteur responsable de l'Europe, favorisant l'affirmation du pôle européen dans un monde qui doit être de plus en plus multilatéral et où la compétition avec les États-continents comme la Chine, est de plus en plus dangereuse. Donc c'est ça que j'attends en réalité, un président moins paradoxal que Trump, plus responsable dans l'ordre international.
Merci.
Cela étant, Trump n'a pas provoqué de guerre. Ça n'était pas Bush. Je dirais que Bush a été pire que Trump dans sa guerre en Irak, qui a rendu le monde beaucoup moins sûr et entraîné un regain de terrorisme islamiste.
Merci Philippe Bas d'avoir répondu aux questions de France Inter. Il est 13h46.
France Inter, le 13-14.
Dans 10 minutes, le vif de l'histoire, un peu moins même. Les Anglais peuvent-ils nous donner des leçons de civisme dans le respect du confinement, Jean Lebrun ?
Eh bien, c'est Pierre Dac qui va répondre à cette question, le grand Pierre Dac.
A tout de suite. Le feuilleton, une semaine dans la vie de Charlie Dalin, qui s'apprête à partir pour le Vendée Globe. Aujourd'hui, la peur ou pas de faire le tour du monde seul sur son bateau.
Je suis pas quelqu'un qui craint la solitude, au contraire, c'est quelque chose qui m'attire. Voilà, je me sens bien sur mon bateau, à travailler sur ma trajectoire, régler mes voiles, à bricoler ce qu'il y a à bricoler, réparer ce qu'il y a à réparer.
Rendez-vous dans quelques minutes pour ce feuilleton. Mais d'abord, ils viennent de Caroline du Nord, l'un des états clés de l'élection américaine, le duo Sylvain Esso sur France Inter.
Blocking your way, you're looking pretty fine to me. So why are you waiting? When I'm swimming in my dancing shoes, asphalt hot and my knees all bruised. It's a summer, got a lot to prove. Can't wait to do it, can you? Now, oh, I'm swaying from side to side in the neon lights, singing in the wonder world, got vibes. You're divine for tonight. Thank you.
So why are you waiting? When I'm standing in my dancing shoes, I smell tight and my knees are blue.
Ferris Wheel, titre du troisième album de Sylvanesso, Free Love. Nous partons en mer. Il nous a raconté la naissance de sa passion pour la mer, pour les bateaux, les conditions de vie à bord. C'est le quatrième épisode de notre feuilleton avec le marin du Vendée Globe, Charlie Dalin, seul autour du monde, sur ses océans, parfois effrayants. Une semaine dans leur vie, Charlie Dalin, au micro de Jérôme Val.
J'aime ça, quoi. J'aime vraiment être seul sur un bateau pendant les longues périodes. Pour l'instant, je n'ai pas dépassé les 3 semaines seul sur un bateau, donc j'en saurais plus en rentrant du Vendée Globe, mais en tout cas aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir toujours été attiré par les longues périodes en solitaire sur un bateau. Voilà, je suis pas quelqu'un qui craint la solitude, au contraire c'est quelque chose qui m'attire. Voilà, je me sens bien sur mon bateau à travailler sur ma trajectoire, régler mes voiles, bricoler ce qu'il y a à bricoler, réparer ce qu'il y a à réparer, vivre à bord tout simplement.
Et ce sont des moments aussi où vous vous questionnez, c'est aussi quelque chose que vous recherchez sur vous-même.
Moi, ce que je viens chercher, c'est beaucoup la compétition, quoi. Je suis un compétiteur de nature, me mesurer aux autres, mais il y a aussi quelque part se mesurer aux éléments, quoi. C'est un environnement qu'on ne contrôle pas. Jouer avec les fronts, jouer avec les dépressions, les anticyclones, les nuages,
ouais.
C'est génial, c'est incroyable, quoi. Et cela étant dit, il y a toujours des moments où je vais contempler ce qui se passe, quoi. Des couchers de soleil, des levées de soleil, des nuits de pleine lune. C'est aussi de temps en temps quand on passe dans des zones riches en plancton de nuit, en fait, ça, le sillage est fluorescent. Quand les dauphins aussi nagent dans ce plancton, ça ressemble à des torpilles qui se déplacent dans l'eau. Là, c'est à des moments magiques, quoi, que j'adore vivre aussi.
Salut, c'est Charlie sur Apivia. Bon, ce soir. C'est ma dernière nuit sur le bateau, dernier coucher de soleil, avant d'arriver aux Açores.
Est-ce qu'en course, en bateau, vous avez déjà eu peur? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez déjà éprouvé ou pas?
Quand je me suis retrouvé dans des conditions compliquées, j'étais plus dans la gestion de ce qui se passait, de justement de garder le dessus et... j'ai l'impression que j'ai pas forcément eu le temps d'avoir peur. Après, la peur, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, quoi. Je pense que pour moi, la peur, c'est un signal qu'il faut accueillir, quoi. Je pense que ça fait partie de l'instinct de survie et je pense que c'est important de au moins comprendre pourquoi et où de quoi on a peur.
Quand on parle des 40e rugissants, les 50e hurlants que vous allez affronter pour la première fois vous concernant, ça vous fascine? Vous vous dites « Ouais, j'ai vraiment envie d'y aller là ?»
Ouais, ça m'attire forcément. Personne ne m'a forcé à y aller. Hein. Moi, j'ai hâte d'y être, au contraire. Il y aura forcément des moments difficiles, mais voilà, c'est pas moi qui vais me plaindre. Moi, j'ai vraiment hâte de vivre ce tour du monde.
Bon, on aperçoit Fernando de Noronha, juste ici. Est-il perdu au milieu de l'Atlantique? Ça avance bien. Ça mouille. Dans moins de 24 heures, on sera le long de la côte du Brésil.
C'est sûr que je me prépare pour quelque chose que je connais pas, quelque part, quoi. Du coup, je me suis préparé en discutant avec beaucoup de vendéglobistes pour voir comment est-ce qu'ils vivaient cette course, quels étaient leurs problèmes, quels ressentis ils avaient à tel moment du période, voilà, pour réussir à me projeter un maximum pour arriver le plus près possible, quoi.
5, 4, 3, 2, 1,
une semaine dans la vie de Charlie Dalin qui s'apprête à prendre le départ du Vendée Globe. Feuilleton à réécouter sur franceinter.fr et le beau Vendée Globe. Nous y consacrerons une longue page de ce journal. Demain, nous serons à 2 jours du départ. C'est l'heure du vif de l'histoire.
France Inter.
le 13-14.
Jean Lebrun, quelque chose me dit que vous cherchez un prétexte pour parler d'un humoriste que vous aimez. Point de départ de la chronique aujourd'hui, le confinement. L'Angleterre s'y met donc aussi. Alors les Britanniques vont-ils nous donner une leçon de civisme comme lors de la Seconde Guerre mondiale sous les bombardements ?
J'entends votre sourire derrière le masque et je vois que vous n'êtes pas sûr de la justesse de la comparaison. Mais enfin, première citation de Pierre Dac. L'accent est grave et je vais seulement y mettre un signe aigu. Et il faut bien que je me serve du matériel pédagogique demandé par mes syndicats et qui m'a été fourni en vue de ce petit cours d'éducation morale et civique. C'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'il a pris en charge à l'occasion d'une exposition dont il faut bien que je vous parle puisqu'elle vient de fermer provisoirement.
Alors une exposition Pierre Dac, donc Pierre Dac, prince du Loufoque, grande figure de Radion Londres, grand dépressif aussi, sujet au Black Dog, dirait votre cher Churchill.
Ah bah maintenant c'est vous qui citez Churchill. Oui, les grands dépressifs peuvent faire d'immenses humoristes. Dac a été le fondateur avant la guerre de L'Os à Moelle et il sera l'auteur après la guerre de Signé Furax.
Ah oui.
En compagnie de Francis Blanche, avec qui il formera le couple de Black and White, et réciproquement. Dans ce grand moment, souvenez-vous, figurait un personnage au fort accent germanique, Claquemuche, et réciproquement, Klufmash, qui incarnait tout ce qu'avait combattu Pierre Dac pendant la guerre où il avait tenu le premier rôle dans Les Français parlent aux Français.
Alors Pierre Dac n'était parvenu à Londres au prix de mille difficultés qu'en 1943.
En effet. Et étant arrivé en Angleterre, dans l'état dans lequel il se trouvait, il prit de suite la précaution d'acheter des effets, et particulièrement un chapeau melon et un parapluie. Puis, il héla un taxi pour se rendre à la BBC. Mais un bombardement, on en vient enfin au bombardement,
oui,
intervint. Ça tombait à foison de tous les côtés, à cadence accélérée et à jet continu. La voiture trouva cependant son chemin jusqu'à la radio. Pâle comme un linge, le passager dit au chauffeur « Eh ben mon vieux, on en a eu de la veine. » Et celui-ci répondit « Oui, monsieur, tous les feux étaient au vert. » Le civisme, les Anglais, Bruno, passe par l'humour. Churchill, c'est mon tour,
oui,
recommandait toujours au chef de sourire. Pierre Dac raconte qu'un autre jour, il eut à prendre le bus pour aller, il ne savait plus très bien où exactement, enfin, à l'arrêt obligatoire, il s'arrêta obligatoirement. Une queue d'une vingtaine de personnes attendait patiemment, flegmatiquement. Britanniquement, en somme. Naturellement, comme tout bon parisien, Pierre Dac se faufila habilement au premier rang de la file, mais il entendit une voix dire le plus aimablement possible « C'est un Français ». Je vous le dis dans notre langue parce que Pierre Dac préférait l'anglais qu'on lui parlait en français. Une fois la remarque entendue, il a redescendu la file d'attente, l'oreille plus basse que celle d'un basset en bas âge. Et il a attendu le bus derrière les autres, sans énervement.
C'est ainsi que les Britanniques se comportaient civiquement.
Le roi George VI lui-même, pour économiser l'eau, l'électricité s'économisait d'elle-même par ses multiples pannes, avait fait tracer une ligne bleue dans sa baignoire qu'il demandait à son valet de chambre de ne pas dépasser. C'était vraiment une haute époque. Certains en ont même contracté la nostalgie. Parce que les Britanniques défendaient leur liberté. Pour le dire autrement, la liberté comptait davantage que leur propre vie. Je ne suis pas sûr que si on dit réciproquement que c'est la protection de l'espèce qui compte davantage que la liberté, on obtienne le même résultat. Ah, j'allais oublier, Bruno. Pierre Dac précisait, à titre d'information complémentaire, que chaque nuit, dans tous les coins de Hyde Park, des couples de troufions et de troufionnes, de troufionnes et de civils prenaient leurs ébats fort tranquillement mais assez bruyamment sans que, pas plus quiconque que qui que ce soit, s'avisât de les déranger. Ben vous avez finalement raison. Hein. Rien n'est plus sûr que ce qui est certain. Le couvre-feu de 2020 ne ressemble pas au blackout d'alors.
Le vif de l'histoire en forme de pastiche hommage à Pierre Dac aujourd'hui, oui Jean ?
Oui, comme les librairies sont fermées, je signale qu'un petit livre sur Pierre Dac à Londres est sorti chez Libretto.
C'est bien noté. À demain, Jean Lebrun. Bonjour, Mathieu Vidard.
Bonjour, Bruno.
La Terre au carré.
Oui, avec une histoire du changement climatique, ouais, qui va nous faire remonter, ça c'est pour Jean aussi, au 15e siècle.
Eh ben, c'est noté. À tout de suite.